Bienvenue à Montréal. Mon nom est Patrick Tellen, je suis concepteur de jeux et aussi l'un des deux animateurs de cette nouvelle émission que nous nommons Poutine à deux. Je sous-entends qu'il y a un autre animateur, donc on va lui parler tout de suite. Il est en face de moi et son nom est Grégory Bellassel. Bien le bonsoir, Greg. Est-ce que ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Très bien. On aime ça, les titres. C'est quoi ton titre face à l'industrie?
Je suis aussi concepteur de jeux vidéo.
Oui, c'est le premier épisode, ou même, je pourrais dire, l'épisode 0, si on veut être officiel de Poutine à deux.
Oui, l'épisode 0, parce qu'on est, on est l'invité l'un de l'autre ce soir. C'est un peu un épisode spécial.
Oui, c'est ça. Donc, on s'avait dit, bon, oui, c'est bon de recevoir des invités de l'industrie du jeu, mais ça vaudrait peut-être la peine de se présenter aussi parce qu'on est dans l'industrie du jeu. Donc, on va sensiblement appliquer notre recette ce soir sur nous-mêmes, voir si ça fonctionne. Peut-être ensuite faire des petits ajustements, mais essentiellement, proposer du contenu intéressant pour les amis Patreon de Radio Kawa.
Joli, j'aime bien la recette, on va aller manger une poutine, c'est génial.
Non, j'ai vraiment travaillé sur mon champ lexical. Donc, je crois pas qu'on va perdre plus de temps. Greg, on va empaqueter les choses et aller vers le restaurant.
Ça marche.
Fantastique. Bon, nous voilà déjà rendus au Hippie Poutine. Est-ce que tu te sens d'attaque, Greg?
Oui, ben j'écoute, j'ai commencé à regarder le menu, ça a l'air ma foi très appétissant.
OK. À date, c'est quoi les options qui t'intéresseraient, non?
Ben, ce que je veux savoir, c'est que moi, je prends rarement de la poutine régulière. J'aime plus un peu les choix originaux ou exotiques. Donc, je regardais entre la mexicaine, qui est grosso modo du chicken carne avec des frites et du fromage, ou la Glasgow, qui vient avec trois sortes de viande et de la sauce barbecue.
Si tu me permets, on va déjà aller en profondeur un peu, si tu me permets. Là.
Je veux pas te forcer,
mais d'où vient ce dédain de la poutine traditionnelle? Est-ce que c'est un rejet de la culture québécoise?
Non, je dirais pas que c'est du dédain, mais je sais pas pourquoi, mais à quelque part... Un repas devrait être plus que des frites, de la sauce et du fromage, voilà.
Non, c'est vrai, je viens d'une famille de descendance irlandaise et moi de mon côté aussi. Il faut tout le temps que tu aies une pièce de viande, idéalement des pommes de terre, c'est couvert dans la poutine. Mais normalement, il faut une pièce de viande. Ce qui explique un peu mon choix de mon côté, j'ai décidé vraiment d'y aller avec le concept. On a une poutine Moscou actuellement.
Voilà, pour la poutine de Moscou.
Oui, voilà, c'est ça. C'est donc, j'ai dit, bon, ça va évoquer aussi le froid québécois aussi. Donc, c'est vraiment fantastique en termes de symbolisme.
Tu restes dans la thématique, c'est génial.
Absolument. Je pense qu'on va arrêter de faire de la psychologie de divan, puis on va peut-être parler de nous, là, tu sais, je veux dire, en tant que professionnel de l'industrie du jeu. Première question pour toi. T'as l'air d'un gars qui aime beaucoup les jeux vidéo quand même. Comment ça a commencé de ton côté?
Je me sens jugé que tu regardes mon apparence et tout de suite tu dis t'as l'air d'un gars qui aime le jeu vidéo.
Il faut savoir que ça fait 3 ans qu'on enregistre ces jeux vidéo, donc. Hein?
Écoute, de plus loin que je me souvienne, je pense que j'ai commencé sur les petits jeux portables tout simples qui marchaient avec des batteries.
Les Tiger notamment?
Des trucs comme ça, tu sais, okay. les jeux Nintendo aussi, les Watch and.
Game and Watch.
Donc j'ai vraiment commencé avec ça, puis déjà j'étais accroché. C'est quand même été, je pense, ma première console, je l'ai seulement quand j'avais 6 ans, je crois. Mm-hmm. Mais entre-temps, j'étais chanceux, mon père aimait les jeux vidéo. J'avais un oncle aussi qui aimait les jeux vidéo, qui avait des Atari, etc. Donc j'ai toujours été en contact de cette façon-là au jeu. Et donc, dès que j'ai une console, qui était la Master System étant ma première, j'étais accroché et j'ai joué. J'ai toujours eu des consoles après ça ou des ordinateurs depuis 6 ans, fait maintenant 30 ans.
Toi, de ton côté, avais-tu une préférence pour les micro-ordinateurs? Parce que oui, je vais le dire, le terme des années 80, micro-ordinateur, avais-tu une préférence pour ça ou pour les consoles? Ici, oui, pourquoi?
En fait, j'ai toujours été très plateforme agnostique dès le début. Donc, tu vois, j'aimais la Master System, mais mes cousins avaient un Nintendo, donc j'avais l'occasion de jouer au Nintendo. Éventuellement, j'ai eu le Mega Drive, donc qui vient du Genesis en Amérique du Nord. Je me suis aussi arrangé pour acheter un Super Nintendo. Éventuellement, ma famille a un ordinateur, donc j'ai joué à des jeux comme Wing Commander, comme Populous. Donc, en fait, pour moi, la plateforme n'était pas importante. C'était les jeux, les expériences sur lesquelles je jouais. Donc, dès que j'avais l'occasion de jouer, que ce soit en arcade ou peu importe, je sautais sur l'occasion.
Puis là, avec ton bagage professionnel et un peu plus de rétrospective, est-ce que tu es déjà capable d'analyser les trucs qui te faisaient vraiment triper à l'époque?
Oh, c'est une très bonne question. J'ai toujours été fan de RPG. J'ai toujours été, donc les gens un peu plus viandeux, un peu plus immersifs. Ça a toujours été des trucs qui sont venus me chercher plus que nécessairement mettons, les jeux d'arcade qui étaient un peu plus réalistes, mais qui avaient moins de profondeur. J'ai toujours été un fan de jeux un peu étranges. Donc si t'avais un genre, moi je me souviens par exemple un jeu qui s'appelait Link Grisseur sur Genesis, qui est un précurseur de beaucoup de JRPG tactiques. C'était, tu sais, des graphiques vraiment de base, c'était pas très beau, mais moi je trippais dessus parce que c'était comme tu bougeais des armées, puis t'avais des combats en side scroller où tu te balançais des pouvoirs dans la tronche. Il y avait du drama à la Game of Thrones avec des trahisons, des gens qui se sacrifiaient. Moi ça a toujours été le genre de truc qui m'a toujours plu, donc j'ai toujours été attiré un peu par les jeux qui sortaient des sentiers battus. Je te dirais, après ça, pour moi ma grosse révélation, c'est quand j'ai joué à des jeux plus systémiques. Deus Ex, l'original sur PC, c'est probablement un de mes plus grands souvenirs vidéoludiques, mais aussi tout ce qui est les jeux de Molineux, donc les Populous, les Magic Carpet, des jeux où on te donne des systèmes, on te donne un univers, on te laisse faire ce que tu veux. Moi c'est que je me suis rendu compte que ok, non seulement un jeu tu peux faire potentiellement des histoires cool, mais en plus tu peux donner une liberté que tu n'as pas ni dans le monde réel ni dans d'autres médias.
Non, puis ça commence à cadrer parce que bon, un truc quand on commence à te fréquenter, qu'on commence à savoir aussi, c'est que tu es notamment un grand fan de Warren Spector, vraiment toute cette descendance-là de concepteurs qui sont nés dans le jeu de rôle papier, dans tout ce qui est système et ainsi de suite.
Ouais, exactement, c'était des grosses influences et encore aujourd'hui en fait, c'est énormément comme ça que j'approche le design, ça m'a vraiment influencé. C'est sûr qu'il y a des jeux qui sont influencés par Nintendo avec le côté plus vraiment contrôle très épuré, côté très simpliste. Moi, c'est pas nécessairement que j'aime les jeux compliqués, mais j'aime les jeux qui donnent énormément de contrôle et de profondeur aux joueurs. Et quand j'ai par exemple la Breath of the Wild, pour moi, j'étais vraiment content parce que c'est un jeu Nintendo, mais qui a le genre de système que j'adore.
Mm-hmm. Non, c'est cool.
Mais là, ma question, c'est maintenant de se retourner vers toi, Pat. Personnellement, encore une fois, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc je sais un peu ton histoire, mais je pense que pour les auditeurs, ça sera intéressant de savoir. Patrick Tellan, un jeune enfant de la région de Trois-Rivières, c'est ça?
Exactement.
Comment a-t-il découvert le jeu vidéo? Comment est-ce que ça t'a accroché?
Moi, très ironiquement, maintenant, je suis un grand fan de console, je suis un grand fan de Nintendo, mais lorsque ça a commencé de mon côté, ça a vraiment été au micro-ordinateur. Je sais pas si t'es familier avec le Commodore 64?
Oui, mon oncle qui avait des ordinateurs en a eu un, donc j'ai eu l'occasion de jouer sur le sien.
Donc c'est ça, pour moi, ça a été vraiment mon premier contact avec le jeu vidéo, puis ça, je te dirais, je suis né en 85, donc on parle des environs de 87-88, je commençais à être conscient de ça, je jouais à des jeux éducatifs, il y avait des adaptations de jeux d'arcade. Anecdote intéressante, le jeu que ma mère a joué beaucoup quand elle était enceinte, c'était Donkey Kong. Donc après ça, peut-être ça dénient au niveau de mes préférences de compagnie. Et donc ça a tout le temps été présent dans ma famille. Mon père aimait beaucoup les technologies. Ma mère a suivi un peu mon père là-dedans. Les deux jouaient beaucoup à des jeux d'arcade classiques parce que bon, c'était fin des années 70, début des années 80. Donc les jeux d'arcade avaient vraiment la cote. Donc je suis vraiment né là-dedans. Mais étant en Amérique du Nord, étant né en 85, ça n'a pas pris de temps. J'ai commencé à être en contact avec les jeux consoles et bien sûr avec, évidemment, la NES. Et à partir de là, ça a vraiment été console vraiment d'un bout à l'autre.
Là. Fait que là, bon, grand fan de Nintendo, ceux qui te connaissent un peu ne seront absolument pas surpris. Mais qu'est-ce qui était cherché, par exemple, dans les jeux Nintendo comparé, exemple, aux jeux de Sega? Parce que j'imagine que tu as été en contact, comme beaucoup de jeunes à l'époque, avec les deux plateformes. Mais je sais que tu as un amour tout particulier pour Nintendo, un peu moins pour Sega. Où est-ce que tu voyais la différence entre les deux?
Ça, il y a plusieurs, comment je pourrais dire, couches à cette problématique-là, pourrait-on dire.
Ah, c'est une question complexe, là, c'est,
absolument.
C'est sûr.
En Amérique du Nord, souvent, par défaut, il y avait une présence de Sega, mais je te dirais, à 95%, le monde avait des NES. Donc, comme maintenant, on peut dire des fois un Xbox ou un PlayStation pour parler de jeux vidéo. Au Québec, tu disais un Nintendo, tu ne voulais pas dire une console de jeux vidéo, tu disais un Nintendo. Donc, tu sais, c'était vraiment incorporé dans les mentalités québécoises. Et c'est une raison pourquoi, notamment, Nintendo, c'est encore une marque au Québec qui est très forte, qui est très appréciée, qui est très aimée d'une manière très nostalgique. Ça a été comme vraiment brûlé dans notre mémoire dès le début. Donc, j'ai été pris là-dedans, pour être honnête. Mon premier contact avec le jeu vidéo, ça a été Nintendo. Comme j'ai mentionné, le jeu préféré de ma mère, c'est Donkey Kong. Donc, il y avait encore une appréciation déjà à la maison pour cette marque-là. Et bon, au fur et à mesure, j'ai grandi. Mes parents avaient été très responsables, trop responsables au début. Ils ne m'avaient pas acheté une NES. J'ai eu plus un contact via mes cousins et mes amis. Mais éventuellement, ma deuxième console a été le Super Nintendo. Ça a été ma première grosse console. Et je dois t'avouer, dès le début, si t'as été élevé dans ce contexte-là, où t'aimes une marque, là, la console rentre, les jeux t'impressionnent, tu restes un peu collé dedans. Et là où la dynamique est vraiment intéressante, particulièrement au Québec, c'est qu'encore une fois, à l'époque de la Super Nintendo, la majorité des enfants avaient des produits Nintendo, mais t'avais quand même tout le temps le tiers des enfants qui avaient une Genesis ou une Mega Drive pour nos amis en Europe. Et là, ça créait des conflits dans la cour d'école parce que, bon, oui, certes, ici et là, il y avait des personnes qui avaient les deux consoles, mais souvent, tu avais soit une Nintendo, soit une console de Sega, et là, tu t'affirmais là-dedans, et là, le monde entre eux se descendait. Le classique, ça a été évidemment Sonic versus Mario, donc effectivement, les gens qui avaient une console de Sega disaient « Ouais, Mario est obèse, puis il court pas vite, puis c'est ennuyant. » Tandis que nous autres, vraiment, on y allait plus comme « Ouais, mais les mondes sont cool, t'as une montagne de chocolat, c'est fantastique. » Donc, c'est ça. En partant, j'ai eu un grand amour pour vraiment, ça a marqué mon enfance. Ensuite, on pourrait dire, j'ai affirmé mon amour pour la marque à l'école parce que j'ai été forcé.
T'as pris un côté dans la guerre des consoles de cours d'école.
Ouais, exactement. Et ça, je dois t'avouer, j'étais encore un peu coincé
oui,
là-dedans.
C'est vrai.
Mais ceci étant dit, au fur et à mesure que j'ai commencé à me développer en tant que personne, en tant qu'adolescent, que j'ai commencé à faire des jeux vidéo à la maison, puis un petit peu plus tard comme professionnel, lorsqu'on va en discuter. Je revenais aux jeux de Nintendo, des fois les jeux très classiques, et j'étais impressionné par la profondeur, à quel point que Super Mario, on va le dire à la québécoise, Super Mario Bros, c'est un jeu qui fonctionnait tout le temps bien, qui était tout le temps plaisant, malgré le fait que c'était archaïque d'une perspective technique. Et ça a comme finalisé le truc, c'est-à-dire, de cœur, j'aime vraiment ça, mais d'intellect aussi, je trouve que c'est des jeux très solides, donc ça doit être probablement pour ça que j'ai été marqué par cette marque-là.
J'ai parlé un peu des jeux qui m'ont le plus influencé ou qui m'ont marqué du moins et des créateurs de jeux. Je veux que je retourne un peu la question. Si tu devais retourner dans ta mémoire, mettons un jeu, un créateur qui t'a particulièrement marqué, qui marque ta carrière même encore aujourd'hui.
Je vais être très ennuyant, guère surprenant, mais sérieusement, l'œuvre de Shigeru Miyamoto en partant, même dans le temps que je savais pas que c'était le type derrière Donkey Kong, Mario, Star Fox, tous ces jeux-là. Définitivement, dès qu'il y avait la patte de ce type-là, les jeux allaient me chercher. Très étonnamment, dès que j'ai eu mon Super Nintendo, moi j'avais eu l'emballage avec Super Mario World, les deux manettes, ainsi de suite. Donc ce jeu-là m'a marqué et je serais curieux d'avoir ton avis, mais je persiste à croire que c'est probablement un des meilleurs jeux de cette génération-là de consoles. Le jeu était très long, très imaginatif, peaufinait parfaitement les mécaniques de Mario. Et c'est pour dire qu'on avait eu un jeu très fort avec Super Mario Bros. 3 juste avant. Mais pour moi, c'était déjà un best-of de qu'est-ce qu'était Mario sous le format 2D.
Ah non, mais c'est sûr que je pense pour un jeu de sortie de console, ça reste probablement un des meilleurs de l'histoire des consoles de jeux vidéo. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de consoles qui sont sorties avec un jeu aussi fort, même ni avant ni après.
Donc c'est ça, c'est vraiment l'époque 16-bit. Pour moi, j'étais jeune, j'ai été vraiment impressionné par ça. Ensuite, bien évidemment, il y a eu l'avènement de la 3D. Sinon, l'autre grande claque pour moi, encore très étonnamment, ça a été Super Mario 64. On avait une chaîne de magasins de jouets. Je ne sais pas s'il y a ça en Europe, des Toys R Us.
Oh oui, des équivalents.
Équivalents. Donc, une fois, ma foi, c'était en septembre 96, quelque chose de même, je m'en vais dans un Toys R Us dans la ville de Québec. Il y avait un attroupement de personnes autour d'un kiosque de consoles que j'avais jamais vu de ma vie. Puis là, je voyais la manière de s'organiser. J'étais là, non, ça se peut pas. C'est pas un kiosque de Nintendo 64. La console doit sortir dans 3 mois. C'est impossible. C'est de la sorcellerie. Finalement, je m'approche de ça, puis effectivement, il y avait Mario 64 qui tournait là-dessus. C'est la première fois que j'étais en contact avec un jeu de 3D plein. Oui, on a eu les Crash Bandicoot de ce monde, ainsi de suite. C'était impressionnant quand même une perspective technique, mais là, on avait un vrai jeu 3D avec un environnement ouvert. Et d'abord, juste le fait d'être confronté à Mario 64, j'étais tombé dessus derrière. C'est la première fois qu'il y avait Mario en 3D. Mais l'autre grande surprise, c'est quand j'ai commencé à jouer, c'est que le jeu répondait parfaitement, je me sentais pas mêlé. Bon, la caméra, maintenant, on peut regarder ça en rétrospective, c'était un peu spécial, mais pour l'époque, ça fonctionnait bien. Ça m'avait vraiment littéralement fait tomber sous derrière. Je pense techniquement, je suis tombé sous derrière, d'ailleurs.
Moi, honnêtement, ce que je me souviens de Mario, à part effectivement, c'était très solide, puis c'était un des premiers jeux qui avait un côté un peu, on va dire, open level, donc après les précurseurs des jeux open world qu'on voit maintenant, les jeux en monde ouvert. Moi, c'était vraiment le contrôle analogique, en fait. Parce que c'était la première console qu'il avait par défaut. Et ça s'est fait réparément des moments de révélation. Tu fais comme, OK, ben là, je comprends c'est quoi d'avoir ce genre de contrôle-là. Parce qu'à l'époque, comme souvent avec Nintendo, on voyait la manette, on disait, bon, il y a quelqu'un qui a fumé, qui a décidé de faire un petit vaisseau de shoot 'em up en manette.
Je suis pas d'accord, je trouvais ça très cool, mais bon,
moi je trouvais ça complètement étrange, comme OK, t'as besoin de trois mains pour toucher tous les boutons.
Non, mais man, il y avait un monde de possibilités qui s'ouvrait à toi. T'avais une manette classique, une manette 3D du futur et...
Mais il fallait que tu l'essayes pour comprendre.
Oui.
C'est, quand tu voyais les photos, tu disais quelqu'un qui est parti sur un délire au Japon là. Mais une fois que tu avais ça en main, effectivement, puis là tout tombait bien en place, tu disais OK, clairement, c'est une manette beaucoup mieux pensée que même la manette de la PlayStation qui était bien,
oui.
Mais qui était en même temps très classique.
Mm-hmm. Absolument. Et toi, justement, à cette époque-là, est-ce qu'il y avait eu des jeux peut-être dans transition vers le 3D qui t'avaient vraiment impressionné, qui t'a marqué, tu as eu le sentiment, OK, on est passé une étape supérieure?
Je vais être rigolo et dire, je pense, un de ceux qui m'avait marqué. Mario, c'est définitivement pour le côté un peu liberté et le côté contrôle, mais Resident Evil.
Mm-hmm.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai joué à Resident Evil à l'époque, c'était le premier Resident Evil, personne ne savait c'était quoi Resident Evil.
D'abord, question, Greg, juste parce qu'on a un public quand même, des fois un peu plus jeune, est-ce que tu avais l'âge légal pour jouer à ce jeu?
Je n'avais pas l'âge, mais c'est pas grave, je jouais une version américaine, donc il n'y avait pas de, rating en France à l'époque.
Ok, donc aux yeux de la loi, t'étais correct.
Donc j'étais clean. Donc le truc, c'est que j'ai ce jeu obscur, parce que ce qu'il faut savoir, pour mettre en contexte, c'est que mes parents... était un importateur de jeux vidéo, donc ils importaient des jeux du Japon et des États-Unis et ils les vendaient au magasin de France en fait. Et donc souvent quand il y avait des jeux un peu obscurs, j'étais celui qui jouait pour pouvoir ensuite expliquer à mes parents c'est quoi le jeu pour qu'ils puissent le vendre. Donc moi je reçois ce jeu là, Resident Evil, je le mets dans la console, j'ai l'intro avec des vrais acteurs qui est complètement kitsch, avec des dialogues pitoyables. Je commence à jouer, j'ai un bonhomme qui se contrôle comme une auto. Mais à l'époque, les graphiques étaient incroyables, quoi. Je veux dire, le jeu faisait peur, il y avait une ambiance, ça me rappelait beaucoup Alone in the Dark, mais finalement avec des personnages qui, pour l'époque, avaient l'air presque réels. Et je suis complètement tombé amoureux de ce jeu-là. D'ailleurs, donc moi, j'ai dit à mes parents, c'est un jeu génial, c'est Alone in the Dark, mais fois mille. Ne vous fiez pas à l'intro un peu pourri de film de série B. C'était un jeu complètement génial.
Oui. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, c'est fantastique. Bon appétit. Bon, là, Greg, la poutine vient d'arriver. Oui, Est-ce que c'est à la hauteur de tes espérances?
Ça a l'air très bon, ça sent très bon aussi.
C'est un peu moche qu'on fasse pas finalement une émission vidéo parce que, effectivement, c'est
un peu.
Oui,
on pourra prendre une photo.
Oh oui, non, c'est ça, on pourra faire ça. Une expérience multimédia, comme on disait dans le milieu.
Exactement. Ça, moi, j'aurais quand même peut-être une dernière question qui t'a avant de fermer la page de l'enfance. C'est...
Bien sûr.
Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as décidé, moi, je veux travailler dans le jeu vidéo?
Assez jeune, j'ai été idéaliste. Dans le temps, nous autres, en Amérique du Nord, on avait accès au Nintendo Powers, qui était la revue de propagande de Nintendo. Et bien évidemment, je l'achetais de temps en temps. J'étais pas abonné, cependant. Peut-être des conséquences auraient été graves. Mais dans ces revues-là, de temps en temps, on parlait des gens de Nintendo qui faisaient des jeux. Puis là, tu te rends compte, finalement, les jeux de Nintendo, oh, c'est fait au Japon, c'est des gens dans un autre pays qui travaillent là-dessus, c'est bizarre, c'est exotique. Mais pour être honnête, au Québec, jusqu'à temps qu'on soit fin des années 90, début 2000, on n'entendait pas vraiment parler. Pour moi, vraiment, à l'adolescence, c'est là que le studio d'Ubisoft Montréal avait ouvert. Là, ça commençait à être une réalité pour moi de dire « Oh, potentiellement, je pourrais travailler en jeu avant. » Tu sais, je regardais ça, c'était un rêve d'enfant de travailler en jeu vidéo, mais j'étais là « Bon, OK, les jeux sont faits ailleurs, c'est fait au Japon, c'est à l'autre bout du monde, ça n'existe pas dans ma réalité d'enfant. » Mais quand Ubisoft a ouvert à Montréal, là, je me disais « Oh, merde, là, ça peut être une possibilité. Montréal, j'y vais à peu près 3 fois par année, donc c'est pas trop loin, c'est accessible. » Donc, c'est vraiment à ce moment-là, ça a déclenché. Et aussi, à l'école secondaire, qui est l'équivalent de quoi en France? Le lycée, j'imagine?
L'école secondaire, c'est l'équivalent du lycée, oui.
Bon, c'est ça. Donc, à l'école secondaire, je regardais aussi les matières qui m'attiraient. J'aimais beaucoup l'informatique, j'aimais les mathématiques, j'aimais l'art. J'aimais la création aussi, les arts plastiques. Et là, je me rendais compte, OK, il n'y a rien à faire avec ce portrait-là. Mais en même temps, je me disais, je pourrais coller ça aux jeux vidéo. Dans mes cours d'informatique, je faisais des petits jeux, tout ça. Donc, j'ai dit... Non, d'après moi, ça pourrait être une profession, puis même s'il n'y avait pas un cheminement scolaire vers ça, je me disais, non, ça serait peut-être possible. Toi, de ton côté, c'était quoi le déclencheur?
Moi, de mémoire, et mes parents ont confirmé ça, la première fois que j'ai dit que je voulais... À l'époque, je disais programmeur de jeux vidéo, parce que, bon, dans l'époque, les programmeurs et les créateurs, c'était la même chose. J'avais 6 ans. Donc, depuis l'âge de 6 ans, j'avais ça en tête. Et pendant longtemps, en fait, j'avais deux idées qui me sont restées en tête longtemps. C'était soit je vais faire des jeux vidéo, soit je vais être astronaute. Et je pense que ça a été comme ça jusqu'à peu près l'âge de 12-13 ans où j'avais été voir une conseillère d'orientation. Et ce qui était ressorti, c'est que pour être astronaute, faut entre autres que tu passes par l'armée. Maintenant, c'est sûr qu'il commence à y avoir des programmes civils d'exploration spatiale, mais ce n'était pas l'époque, ce n'était pas le cas à l'époque. Et moi, je ne me voyais absolument pas rentrer dans l'armée, même pour avoir peut-être une chance d'aller dans l'espace. Donc, éventuellement, j'ai fait « Bon, je laisse tomber astronaute. Maintenant, je vais faire des jeux vidéo. »
Avant de rentrer dans l'époque professionnelle, Greg, on a reçu une poutine à date. Tu as eu la chance d'écouter. J'ai eu la chance d'écouter. Toi, ton côté, qu'est-ce que
c'est? Très bien.
Très bien.
Oui, définitivement.
Qu'est-ce qui fait d'elle une poutine spéciale actuellement? Fais-moi une description.
Il y a du porc effiloché, des saucisses, du bacon et de la sauce barbecue.
OK.
Voilà.
Puis à date, ça fait le boulot?
Que demander de plus?
Toi, c'est une bonne balance actuellement, c'est pas trop viandeux.
Je suis très heureux.
OK, très bien. Qu'est-ce que tu penses des frites? Les frites sont particulières, c'est pas des frites nord-américaines typiques, là. On se cache pas.
Oui, effectivement, elles sont un peu plus fines, c'est plus des frites à l'européenne. J'avoue que pour une poutine, je les préfère quand elles sont un peu plus grosses.
Point très intéressant. Je sais pas pourquoi, mais moi, de mon côté, je préfère des frites de même. C'est peut-être l'exotisme de l'Europe et ainsi
ça
de suite.
Moi, j'aime ça quand les frites sont assez grosses pour rentrer facilement dans la bouche, en fait. C'est vraiment... purement un côté pratico-pratique.
C'est très fonctionnel.
Voilà.
On se le cachera pas. Sinon, moi, de mon côté, vraiment, c'est les mêmes frites, on se le cachera pas. Sinon, il y a de la saucisse de style européen. Puis ça cadre, la Russie est quand même dans l'Europe, donc ce n'est pas trop à côté. J'ai du fromage orangé un peu. Ça, j'avoue, c'est pas très russe.
Tu sais pas, peut-être que c'est très russe, en fait.
Il faudrait peut-être enregistrer en Russie, hein, éventuellement. Voilà. J'en prends bonne note, ça risque de coûter cher, mais Radio Kawa va éponger, j'en suis persuadé. Sinon, c'est ça, j'ai de la saucisse européenne, j'ai des champignons. Qui dit vraiment qu'il y ait des champignons dans la forêt dit russe, donc ça cadre. Et sinon, je regarde actuellement du fromage en grains, bien évidemment, et de la sauce béchamel un peu. Donc, on a quand même quelque chose d'exotique. Encore une fois, j'ai de la misère à voir comment de la béchamel s'avère russe, mais peut-être une vision de la chose.
Je sais pas, c'est de la sauce blanche, voilà.
Blanche comme neige comme... qui couvre Moscou.
Voilà, comme tu sais, un wet Russian.
Ah!
Je sais pas, mais il doit y avoir une raison.
Très bien. Donc, c'est notre segment obligatoire sur la poutine parce que, bon, quel est le nom de l'émission, Greg?
Poutine à deux.
Merci. Non, mais c'est important de pousser la marque.
Non,
mais
tout à fait.
Donc, on va parler un peu de la première période professionnelle. Pour toi, ça a été quoi tes premières armes en jeu vidéo, là?
Grosso modo, moi, j'ai eu l'opportunité de travailler un peu comme pigiste en journaliste de jeux vidéo au Québec. Donc je faisais c'était les balbutiements d'Internet, donc j'ai eu l'occasion de faire des petits trucs pour certains sites Internet. J'ai eu l'occasion de faire des trucs pour des journaux locaux, j'ai eu l'occasion de participer à certaines émissions de jeux vidéo aussi. Il y avait la Revanche des Nerds, entre autres.
Ça consistait en quoi cette émission-là?
Ils avaient un segment jeux vidéo, donc c'est une émission technologique sur ZTélé, qui est une chaîne ici. Mais ils avaient donc une fois par semaine un épisode où ils parlaient jeux vidéo. Donc moi j'avais eu l'occasion de les approcher en leur disant je pense que j'ai certains trucs qui pourraient vous intéresser, etc. Puis éventuellement ils m'ont invité pour venir présenter ça. Puis j'ai eu l'occasion de repasser là, je pense, 3 ou 4 fois.
Mm-hmm.
Donc de fil en aiguille, j'ai réussi à utiliser ça pour pouvoir aller à l'E3. Donc c'était super cool, j'ai fait mes papiers, mais quand j'avais été là-bas, il y avait une section qui représentait le Canada.
Okay.
Et donc là-dedans, il y avait énormément de développeurs de la région montréalaise. Donc moi, j'avais pris tous les prospectus, toutes les adresses. Et quand je suis revenu de l'E3, j'ai envoyé des emails à tout le monde. Si vous avez un poste de testeur, tenez-moi au courant, ça m'intéresserait. Donc c'est ça, donc j'ai envoyé ça à plein de compagnies. Finalement, il y en a une particulièrement qui m'a contacté. Il s'appelait Vircom,
okay.
Qui techniquement existe encore aujourd'hui parce qu'il y avait deux départements. Un département de service qui faisait des web serveurs, du web mail aux compagnies qui existent encore, et une section jeux vidéo.
Mm-hmm.
La section jeux vidéo, je pense, appartenait en partie à Cryo, qui était une compagnie française.
Mm-hmm.
Et ils faisaient à l'époque un jeu qui s'appelait The Force Coming, qui était exploité par différents. Donc en fait, eux, ils vendaient la licence du jeu, puis ils faisaient du support, mais c'est d'autres personnes qui exploitaient le jeu. Et moi, quand j'étais QA là-bas, ils développaient un nouveau jeu. Pour une marque basée sur une licence française qui s'appelle Chronique de la Lune Noire,
okay.
Qui est une série de bandes dessinées. Et donc, ils commençaient à faire ce jeu-là. Donc, moi, ils m'ont engagé comme testeur pour l'été à l'origine. Et éventuellement, j'étais capable de rester là. Donc, j'étais aussi aux études, mais donc je faisais ça à temps partiel. Donc, à peu près 2 jours par semaine, j'allais là-bas et je testais. Et là, ça m'a permis de commencer à parler à des développeurs. Au fur et à mesure, j'avais quand même un bon... J'étudiais en informatique à l'époque, donc j'étais capable éventuellement d'ouvrir les scripts qui contrôlaient le jeu, puis d'aller vraiment trouver quels étaient les problèmes. Donc au lieu de rapporter un bug en disant ça marche pas, je pouvais dire ça marche pas, puis ça vient de tel script à telle ligne, il y a une erreur. Donc petit à petit, j'ai vraiment eu la chance comme ça de me faire mentorer. C'était une petite équipe, un petit studio C'était vraiment une super bonne expérience pour moi pour commencer à découvrir un peu c'est quoi être un développeur et éventuellement que le game design m'intéressait beaucoup plus que la programmation. Et donc éventuellement, je suis un peu aussi orienté plus vers ça. Pour toi, quel a été ton premier contact dans l'industrie? Comment est-ce que tu as mis un pied dans la porte?
C'est très intéressant. Moi, en termes de formation, j'avais étudié en ce qu'on appelait dans le temps, je ne sais pas si ça existe encore, c'était une technique d'intégration multimédia. J'avais toujours ce rêve-là un peu stupide de travailler en jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi à l'époque, c'est que le jeu vidéo se développait vraiment à Montréal, mais à Québec, ça commençait. Ubisoft avait annoncé un studio à Québec. Il y avait déjà Binox, une compagnie qu'on va parler tantôt, qui avait ouvert des locaux, mais c'était encore plus petit. On avait une compagnie qui s'appelait Sarbacane, qui faisait plus des jeux Flash, ainsi de suite. Donc, après mon stage au ministère de la Santé, pour être totalement clair et exact dans les détails, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. J'ai quand même eu une offre d'emploi là-bas avec quand même un assez bon salaire, mais j'ai fait bon garde. J'ai 19 ans, je sors de l'école, j'ai peut-être quelques années à perdre en essayant de poursuivre mon rêve de travailler en jeu vidéo, donc je vais m'essayer. Et bon, à l'époque, il faut se rappeler aussi qu'il n'y avait pas encore des écoles de jeux vidéo. Donc, si tu devenais concepteur de jeux, c'est un petit peu vraiment en apprenant sur le tas, comme on dit ici. Et bon, le classique, je sais pas, dans ton temps, c'était la même affaire, mais tu sais, le classique, souvent, quand tu étais concepteur, tu disais, bon, je veux rentrer d'abord comme testeur dans un studio.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, bon, même au niveau des testeurs, il y a comme maintenant des programmes qui font des testeurs, etc. À l'époque, c'est soit tu étais chanceux, tu connaissais quelqu'un, ou tu allais un peu au culot. Mm-hmm. C'était effectivement une excellente façon de se mettre les mains dans le cambouis, d'apprendre et éventuellement de pouvoir aller vers quelque chose de plus proche du développement.
Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Dans le fond, il y avait une petite firme à l'époque qui s'appelait Binox, qui éventuellement est devenue un gros studio d'Activision à Québec. Dans le temps, je pense que j'étais rentré, il y avait environ 20 personnes, mais il y avait besoin de testeurs. Donc, j'ai dit, bon, voici mon opportunité. Il venait juste de se faire acheter par Activision. Donc, tu dis, OK, il y a peut-être des possibilités que ça devienne un gros studio qui fait des développements de consoles. J'ai été vraiment chanceux de mon côté. J'ai fait l'équivalent de un an, je pense, en test de développement. Peut-être la nuance sur les auditeurs, des fois, c'est soit tu peux faire du test, mais rester vraiment dans un groupe séparé qui n'interagit pas vraiment avec l'équipe de développement. Mais moi, j'avais la chance d'être le testeur qui teste les fonctionnalités dès qu'elles sont implémentées. Donc, j'avais vraiment un contact direct avec les développeurs. Donc, à l'époque, déjà, j'étais capable de, on pourrait dire, développer cette image-là, de dire non, je m'intéresse au design, je suis capable d'avoir un esprit critique, ainsi de suite. Et des fois, c'était bien reçu, puis bon, ça maintenait un peu ce narratif-là que je m'intéressais au design. Bon, par les discussions qu'on a eues, après ça, j'ai compris que tu as pris part à la création d'une compagnie, même.
C'est que mon premier travail en tant que développeur de jeu, ça a été en tant qu'indie. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'éventuellement, Cryo était en situation financière difficile. Ils ont annulé presque tous les projets qu'ils avaient. Donc, le Vircom a décidé de fermer son département jeux vidéo.
Purée, OK, ça allait bien.
Donc, on est tous retrouvés du jour au lendemain au chômage. Et au début, c'est un peu commencé. Pourquoi on se partirait pas un petit truc, genre un petit mode de Neverwinter Night, qui était à l'époque assez populaire, qui était un jeu qui amenait avec des très bons outils de modding. Donc, c'est un peu commencé comme ça. On s'est rencontrés, on a commencé à regarder les outils de modding de Neverwinter Night, commencé à penser ce qu'on aimerait faire. Puis, de fil en aiguille, des programmeurs. Puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvés qu'on était 15. Là, à un moment donné, on a regardé ce qu'on était en train de mettre en place. On a dit, ouais, 15 pour un mode de jeu, c'est beaucoup. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on part pas notre studio à la place? Et donc, cette idée un peu folle a fait son chemin. On a tout décidé donc de mettre de l'argent, de partir à la compagnie. Et donc, moi, je me suis retrouvé à commencer à être game designer, mais on faisait aussi beaucoup de level design. Je faisais aussi du scripting. Et parce qu'on est fou, au lieu de dire oh, on va faire un petit jeu Game Boy, encore une fois on se dit on est 15, c'est fou, pourquoi on ferait un petit jeu? Faisons un action RPG qui est un mélange entre, on va dire, l'ambiance de Silent Hill, mais avec du gameplay un peu plus à la Zelda et compagnie. Donc tu sais, le truc bien ambitieux sur Xbox original, bien évidemment.
Attends un peu, là, tu voulais faire un Silent Hill avec la richesse mécanique de Zelda en un an ou deux?
Oui.
OK.
Voilà. C'est pas tout le monde qui avait l'expérience pour beaucoup de jeux. C'était le premier jeu console aussi. Donc, énormément d'erreurs ont été faites. Il y a des trucs qu'on a recommencé. Donc, il y a eu beaucoup d'embûches. Les embûches sont normales. Mais quand c'est ton premier jeu, quand tes moyens financiers sont limités, et bah, de fil en aiguille, le jeu lui prend environ 2 ans, 2 ans et demi. Il a pris 3 ans et demi. Dans les derniers mois, non seulement on commençait à manquer de fonds, hein, on avait épuiser toutes les économies qu'on avait. Puis il y a des gens qui avaient des familles, il fallait qu'ils les fassent vivre. Mais en plus, Microsoft ont annoncé la 360.
Ah, merde.
Et ceux qui se souviennent de la transition à l'époque, la transition était très rapide. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement déplugué le support pour les jeux Xbox original pour que les gens passent sur 360. Mais donc, il n'y a plus un publisher qui est intéressé nécessairement à prendre le risque financier d'envoyer des copies en duplication, de faire du marketing, de faire la distribution. Mais au minimum, ce qu'on a retenu de ça, défaut de pouvoir le sortir puis de pouvoir avoir des gens qui y jouent, c'est l'expérience qu'on a acquise nous a tous permis de se replacer. Moi, dans mon cas, je me suis retrouvé chez Ubisoft, puis je me suis retrouvé sur un nouvel IP qu'ils faisaient à l'époque, qui était Assassin's Creed. Donc, okay. Ça n'a pas été si mal, finalement.
Cette fameuse suite à Prince of Persia. Comment tu as vécu la transition de ce studio-là puis Ubisoft? Est-ce qu'il y a eu un moment que tu faisais rien, puis tu as eu une remise en question par rapport au jeu? Parce que là, ça devait frapper un petit peu plus profond, parce que c'était un studio dans lequel tu avais participé, quand même.
Non, mais c'est sûr que je pense que tout le monde, puis d'ailleurs, on est encore en contact, les anciennes Neocell Factory, c'était le nom de notre studio. Tu sais, on a tous perdu de l'argent. Il y a quand même des trucs qu'on s'était mis en garantie qu'il a fallu rembourser. Moi, j'ai certaines... Parmi mes premières payes d'Ubisoft, ça a servi à rembourser les dettes qu'on avait contactées auprès d'aides gouvernementales et autres. Mais au final, on n'a pas nécessairement... on n'a pas tant d'amertume que ça. On a des déceptions parce qu'on aurait aimé pouvoir sortir notre jeu. Souvent, des fois, on se prend à rêver en disant que ça serait cool si on gagnerait au loto et qu'on trouverait un petit studio qui pourrait le faire. Puis à la limite, on sort gratos le jeu rendu là. C'est même plus une question de faire de l'argent. C'est juste une question qu'il y ait des gens qui jouent à ce qu'on a passé 3 ans et demi de notre vie à travailler dessus. Fait que le seul regret qu'on a, c'est vraiment ça, parce que l'expérience, travailler ensemble, le fait que pour beaucoup, ça a lancé ma carrière. Quand je me suis fait engager chez Ubisoft, ils m'ont pas engagé comme un junior parce que j'avais eu cette expérience-là. Quand je travaillais sur Assassin, ils m'ont fait énormément confiance parce qu'ils voyaient que ce gars-là, c'est pas le premier jeu qu'il développe. Ok, peut-être que son jeu est pas sorti, mais il peut aller dans du scripting, il peut faire une structure qui se tient, il peut faire des documents qui sont lisibles. Tu sais, je voyais vraiment que tout ce que j'ai appris là-dessus, ça a pas été perdu, puis ça m'a servi tout au long de ma carrière.
Là, tu vas me pardonner, t'as parlé de toi, t'as parlé d'Assassin. Les gens qui te connaissent savent que t'as une incidence historique sur le design du jeu vidéo.
Je pense qu'il faut mettre ça en perspective.
Crevons l'abcès.
L'histoire amusante, c'est... les jeux Ubisoft au monde ouvert sont connus pour leur tour.
Oui.
Une de mes... Ma tâche sur Assassin, en fait, éventuellement... J'ai commencé comme level designer, mais éventuellement, j'ai plus transitionné vers du game design. Donc, une de mes tâches, c'était tout ce qui était activité dans le monde ouvert, donc qui était en dehors des missions d'assassinat. Et donc parmi ça, y avait les fameuses tours. Donc les tours existaient, le concept des tours existait déjà avant. C'est pas moi qui suis venu avec l'idée, mais j'en ai fait l'implémentation. J'ai dit bon, voilà comment tu fais pour faire un reach high point, donc le terme qu'on utilisait pour dire tu montes une tour. Voilà, c'était un level designer, comment tu fais pour l'implémenter dans chacune de tes tours, chacun de tes points, dans chacun de tes quartiers, pour que tout fonctionne bien, pour que ça. Et presque tout au long de ma carrière chez Ubisoft, à part un projet, j'ai fait des tours. Des fois sur des petites variations, mais grosso modo, on me demandait de recréer ça. L'ironie un peu, c'est quand j'étais chez Warner aussi, la première tâche qu'on m'a donnée, c'était de faire les tours radio qu'il fallait que tu débloques pour avoir du fast travel avec le Batwing. Donc même sur mon premier projet, en partant de chez Ubisoft, j'étais encore en train de faire des tours.
Bon, donc c'est intéressant, t'as ouvert la porte sur Warner. Là, actuellement, tu travailles là-bas. Ça a été quoi ton premier mandat chez Warner?
Chez Warner, principalement, j'ai fait un peu la même chose que je faisais chez Ubisoft.
Mm-hmm. Des tours?
Des tours, entre autres. Non, mais on était juste sur Batman Arkham Origins, on était 3 game designers.
Mm-hmm.
Un qui s'occupait plus du combat, un qui s'occupait plus du côté prédateur, du côté un peu environnemental, et moi qui m'occupais vraiment du côté RPG, économie, monde ouvert. Donc les tours tombaient là-dessus. Vu qu'ils savaient que je voulais aussi commencer un peu à toucher à autre chose, parce que ça m'intéressait de sortir de ma zone de confort que j'avais chez Ubi. J'ai travaillé sur des boss fights quand même, donc ça c'était cool. Mais bon, c'était vraiment en fait faire des mécaniques RPG, des mécaniques de progression, tout ce qui est aussi flow de mission, etc. C'est moi qui m'en suis occupé. Donc c'est des trucs que j'avais déjà fait avant, mais c'est aussi pour ça que Warner Bros. Montréal sont venus me chercher. Ils avaient besoin de quelqu'un qui ait une expertise là-dedans. Parce qu'on n'avait pas tant de temps que ça pour faire le jeu, donc ça prenait quelqu'un qui sait exactement les bonnes pratiques, les bonnes méthodes. Par la suite, par contre, j'ai eu l'occasion de de m'étendre un peu plus dans les trucs qui sont qui sortent de l'ordinaire, puis ça m'a bien arrangé. Donc j'étais content de les aider avec le premier projet, mais après ça il y a aussi la possibilité pour moi de faire d'autres choses, quoi. De ton côté, je veux dire, bon, après Binox,
ouais,
tu as quitté pour aller où?
À Montréal,
donc dans la grande ville.
Mais oui, j'ai passé à Montréal éventuellement, qui a été perçu comme une trahison chez bien des collègues qui habitaient à Québec, d'ailleurs. Et de mon côté, c'est arrivé, on se le rappellera, dans les environs des années 2010. Donc, 2010, on était déjà 3 ans dans l'avènement du téléphone intelligent. Donc, l'iPhone était sorti. Un truc que j'ai pas dit à propos de moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les jeux Nintendo, mais j'avais aussi une préférence un peu étrange pour les jeux portables.
La Game Boy.
J'ai connu la Game Boy vers la fin, donc avec l'avènement de Pokémon, la Game Boy Pocket, ainsi de suite. Et après ça, j'ai creusé dans le vieux catalogue, donc j'ai rejoué l'excellente version de Zelda. Il y avait des très bons Super Mario Land. Sinon, il y avait quelques ovnis qui étaient étranges et intéressants, donc j'ai joué à ça. Mais justement, à travers ce processus-là, j'ai commencé à beaucoup plus préférer la philosophie de développement du jeu portable, parce que bon, d'abord, c'était des jeux, on se rappellera, la 3D commençait à s'installer. C'était des jeux qui étaient plus dans le rétro, qui étaient plus simples en termes de conception, c'était beaucoup plus élégant. Là, j'en parle dans des termes de même, mais bien évidemment, à l'époque, je ne voyais pas de même. Mais pour moi, c'était vraiment des jeux élégants, simples, puis je trouvais qu'il y avait une beauté là-dedans, donc ça m'avait tout le temps tiré. Mais c'est sûr, quand j'ai débuté la carrière, on se cachera pas, il n'y avait pas une tonne de développeurs de jeux portables au Québec, c'était surtout des jeux consoles, donc j'ai commencé en console. Mais là, quand j'ai vu le smartphone évoluer, la possibilité de faire ces petits jeux-là, de faire de l'argent, la possibilité de faire des jeux populaires grâce à cette plateforme-là, j'ai dit « je m'intéresse à ça, il faudrait que j'essaie ça ». Donc, j'ai pris la décision ensuite de passer chez EA. Bon, ça dépend de l'accent anglais que tu vas avoir, mobile, Alouette. Donc, dans le temps, EA avait un studio à Montréal qui faisait du jeu mobile. C'était responsable des franchises Tetris, Rock Band, Scrabble. Donc, il y avait vraiment des gros titres. J'ai adapté le Rock Band pour l'iPad, donc j'avais été d'un premier développeur qui avait travaillé pour l'iPad. Ça a été une expérience très plaisante. On s'avait frotté aussi un petit peu aux jeux sociaux sur Facebook, truc qui est un peu mort maintenant, Dieu merci. Et dans le fond, j'ai été là jusqu'à temps que EA décide de fermer le studio.
Donc, si je comprends bien, t'as vu l'iPhone, tu t'es dit « ceci est une révolution ».
Oui.
Pour citer Steve Jobs en personne,
oui.
Et là tu t'es dit « je veux aller faire du portage, je vais aller faire du mobile ».
Comme on dit dans le milieu, j'ai bu le Kool-Aid.
Et tu le bois encore, parce que je sais que tu t'as... D'une façon générale, je pense que tu apprécies plus le développement mobile que le développement console, à moins que je me trompe.
Là, je te dirais, j'ai quand même un intérêt entre les deux. Ça, c'est peut-être des discussions qu'on pourrait avoir plus tard ou qu'on pourrait avoir sur une autre émission qu'on va mentionner tantôt. Mais il y a des trucs que je trouve quand même encore très intéressants dans le domaine du mobile. Juste la notion de dire que tu fais un jeu et tu es capable de le faire comprendre en moins de 5 minutes et il faut que ça soit captivant pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un défi de design, ma foi, très intéressant. En contrepartie, j'ai quelques difficultés avec les schèmes de monétisation qu'on voit sur mobile actuellement, donc c'est pour ça que je maintiens quand même un intérêt pour les expériences consoles.
Bon, EA Mobile, malheureusement, ferme ses portes.
Oui.
Où est-ce que se retrouve le jeune et fringant Patrick Taylan? Où va-t-il? Quelle est la prochaine étape?
Donc, j'avais quand même une profession de foi encore pour le jeu mobile, donc j'ai regardé pour d'autres studios qui faisaient du développement mobile. Éventuellement, je me suis arrêté sur un studio indépendant qui s'appelait Hibernum. J'en parle au passé, malheureusement, et on va tendre vers là ensuite. Et qu'est-ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'anciens DA qui avaient été là-bas, qui avaient des positions de concepteur senior en programmation, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de gens que je connaissais là-bas. Et qu'est-ce qui était très intéressant pour moi, c'est que c'était une boîte fonctionnant en contrat. Donc, j'ai eu des contrats avec Disney, j'ai eu des contrats avec Lego, j'ai eu des contrats avec Cartoon Network. C'est très intéressant parce que j'ai été exposé à peu près une dizaine de cultures corporatives différentes, dizaine de manières d'approcher le design et le présenter à des clients. Donc, pour moi, ça a été une très bonne expérience. Et aussi, si on regarde mon cheminement, j'ai travaillé sur des jeux d'action sur console. J'ai fait Tetris, j'ai fait Rock Band. Après ça, j'ai fait des jeux stratégie ou des casse-têtes là-bas. C'était aussi une opportunité de toucher à beaucoup de gens différents parce que des fois, on connaît des concepteurs qui aiment juste vraiment rester dans le jeu de tir. Moi, je cultive une appréciation de toucher à plusieurs genres.
Est-ce que justement, dans les différents genres auxquels tu as touché, est-ce qu'il y en a un tout particulièrement qui te plaisait en termes de travail de design?
Absolument. Malheureusement, ça a été mon dernier. C'est un jeu qui n'a pas sorti, mais qu'on en a parlé un peu publiquement, donc je peux en parler un peu. Donc, essentiellement, c'était une collaboration entre la division Future Labs de Lego, qui est en fait l'espèce de division qui sort plein de concepts un peu flyés pour faire des produits qui sortent du produit principal de Lego, c'est-à-dire, bon, les petits kits de briques en plastique. Et de mon côté, dans le fond, on avait bâti aussi en collaboration avec Intel, qui avait dans le temps une technologie de caméra 3D. On a bâti un jeu de réalité, un jeu d'action réalité augmentée avec Lego et Intel. Ça, pour moi, ça avait été très intéressant parce que d'abord, on avait le challenge de développer un jeu pour une plateforme en évolution, c'est-à-dire la caméra 3D d'Intel. Mais en contrepartie, on collaborait aussi avec une marque de jouets vraiment établie, vraiment affirmée, qui est Lego. Mais en contrepartie, on parle quand même d'un projet pour évoluer la vision de Lego. Donc là, il y avait vraiment une espèce de jeu d'équilibre de dire oui, on doit respecter la tradition et les principes de Lego, mais on doit y aller un petit peu à l'encontre pour justement explorer de nouveaux territoires.
Non, j'avoue que ça a l'air d'être le genre de mandat un peu intéressant. Surtout, bon, on sait que pour beaucoup de gens, que ce soit le futur, c'est soit le VR, soit la réalité augmentée, soit les deux. Donc au moins, tu as eu l'occasion un peu d'avoir une expérience de développement là-dedans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Non, absolument. Ça crée vraiment plein de défis intéressants parce qu'on ne se cachera pas. Qui dit Lego dit souvent des enfants. Donc, on devait bâtir aussi une expérience de réalité augmentée pour des enfants. Et on ne se cachera pas. L'espèce de grammaire de communication d'interface pour la réalité augmentée n'a pas été écrite à date et particulièrement pas pour des enfants. Donc, ça créait des défis intéressants. Ça m'a amené aussi à une approche de design beaucoup plus orientée sur l'utilisateur. Souvent, des fois, il y a des designers qui pensent plus à l'expérience narrative, ainsi de suite. Là, vraiment, on devait attaquer ça vraiment comme un problème d'application qu'on pourrait avoir, notamment sur iPhone ou sur iPad.
Donc, Hibernum, là, tu parlais, bon, ton dernier projet qui n'a pas vu le jour. Ce qu'on peut savoir maintenant, au jour d'aujourd'hui, Patrick Tellant, où est-il? Que fait-il? Allez dans la controverse un peu.
Oui, c'est ça. Ça soit du juteux un peu, effectivement. T'sais, c'est pas juste les trucs de Greg qui ont mal viré. Il faut parler
non,
des
non,
miens.
Non.
Pour ceux qui suivent un peu l'actualité du développement de jeux québécois, malheureusement, Hibernum, en tout cas de ce qu'on a vu probablement, va laisser l'atelier sur la porte. Donc, en ce qui me concerne, en début d'année, c'est ça, j'ai été mis à pied, malheureusement, parce que, bon, on commençait à être serré dans l'argent, puis bon, éventuellement, il faut que tu laisses aller des employés. Bon, on est quand même rendu à la fin de l'été. J'ai été mis à pied en janvier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est une très bonne question, Greg, même si tu la poses pas.
Je l'ai posée avec mes yeux.
Ah, voilà. Encore une fois, on aurait dû faire de la vidéo, finalement.
Ben oui, hein, c'est terrible.
Quelle erreur. On aurait dû aller avec Vidéo Kawa au lieu de Radio Kawa. Plus sérieusement, donc, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Je dois être honnête, si à la fin de mon cheminement, j'ai commencé à avoir des questionnements en ce qui concerne le développement de jeux sur mobile. Il y a des mouvances que je trouve très intéressantes. Il y a des mouvances qui sont très populaires sur le marché que je trouve moins intéressantes. Donc, potentiellement, je regarderais de travailler peut-être dans d'autres sphères du jeu vidéo. Peut-être la console. On avait parlé de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. C'est des domaines que je trouve très intéressants. Donc, de mon côté, même avant cette mise à pied-là, je commençais à dire « OK, ça serait peut-être intéressant. Je passe à une nouvelle étape parce que je ne crois plus être dans ma zone de confort dans ce type d'environnement-là. » La mise à pied est arrivée. Donc, j'ai dit « OK ». C'est malheureux côté salarial, côté argent, mais je dis, bon, c'est un signe du destin peut-être, je vais prendre une pause. Donc, justement, j'ai décidé de faire une réflexion. Ça faisait aussi un bout que je voulais vraiment apprendre à programmer. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, mais je crois beaucoup, de plus en plus, aux designers qui sont capables de prototyper et programmer leurs trucs eux-mêmes au lieu des gars qui sont dans leur coin et qui écrivent leurs documents. Donc, je me suis dit, bon, je vais avoir une opportunité pour prendre la pause et potentiellement développer ce projet un peu fou-là d'être capable de programmer.
Non, mais c'est sûr que c'est des fois un commentaire que j'ai. Moi, je suis quand même assez technique. Je suis pas nécessairement... Ça fait des années que j'ai pas fait de programmation. Je dirais qu'en faire aujourd'hui serait difficile. Il faudrait vraiment que je me mette dedans. Mais je suis très à l'aise dans les engins de jeu. Je suis capable d'aller dedans, de fixer les bugs, de faire du scripting. Je suis capable de m'asseoir avec un programmeur puis de parler logique de code, etc. On peut quand même se comprendre, même si je suis pas capable nécessairement de coder. Effectivement, c'est très apprécié parce que des trucs qui savent parfaitement que c'est pas faisable ou c'est pas clair ou les programmeurs sont un peu en disant ben le gars il sait pas vraiment de quoi il parle parce qu'il sait pas comment ça marche. Donc effectivement, je pense que c'est très difficile d'être un bon game designer sans au moins commencer à apprendre un peu le côté technique. Après ça, est-ce que t'as besoin de savoir programmer aussi bien qu'un programmeur? Peut-être pas. Mais est-ce que t'as au moins besoin de savoir comment fonctionne un jeu puis comment fonctionne la logique d'un jeu, puis ton game design, comment il va se traduire en fonctionnalité. Ça, je pense que c'est un atout majeur. Puis, soyons honnêtes, on a aussi profité de ce temps-là, dans ton cas, entre autres, bah, pour partir ce nouveau podcast.
Ben, regarde, parlons du projet où est-ce qu'on s'est rencontrés. En même temps, ça va peut-être tracer le lien entre nous
c'est
deux.
C'est vrai, c'est vrai.
Les jeux sont faits, ça va faire 3 ans que l'on fait ça.
Après, je pense que c'est ça.
Toi puis moi, on s'avait vraiment connu à cause de l'émission, je crois.
C'est connu à cause de l'émission. Je suis venu, c'était... mon collègue de l'époque,
Pierre-Luc
Foisy, tu cherchais un invité, puis il avait dit ah bah écoute, je connais, je pourrais venir avec Greg parler justement de Batman Arkham Origins. Et donc, ça, je pense qu'on s'est rencontrés là, et éventuellement, Tu m'avais dit, ah, bah écoute, des fois je me cherche un co-animateur à l'occasion parce que ça va mieux quand on est deux. Je trouve que ma voix devient fatigante si je parle trop longtemps. Tu m'as peut-être pas dit ça, mais je l'ai compris à terme.
Encore une fois, ça a paru dans mon regard.
Et voilà, c'est ça, tout est tourné dans le regard. Et j'ai dit, ah, bah oui, je trouvais que l'émission était bien faite, je trouvais que c'était cool. Puis, ben, je pense que j'ai commencé à venir pour co-animer, puis je suis resté. Tu m'as pas mis dehors après ça.
Bon, l'affaire, il faut savoir aussi, c'est un produit qu'on avait beaucoup plus initialement pensé pour le Québec. Donc, on voulait informer la population québécoise sur les développeurs qui sont installés au Québec, qui sont installés à Montréal. Ceci étant dit, de notre côté, on avait quand même des bons chiffres pour le marché québécois, mais le marché québécois est quand même vraiment petit par rapport au reste de la francophonie. Et de notre côté, on avait un raisonnement de dire, bon, il y a d'autres francophones qui pourraient être intéressés à notre contenu, ça pourrait peut-être valoir la peine d'avoir un bon partenaire dans la francophonie, et c'est là qu'on est venu avec Radio-Kawa.
Ben, je sais que c'est toi qui les ai découverts un peu en regardant ce qu'ils faisaient côté podcast en Europe. Comme de ce fait, parmi les très bons podcasts qu'il y avait, c'était des podcasts de Radio-Kawa. Mm-hmm. On a vu aussi que, clairement, le jeu vidéo, c'était un des sujets qui les intéressait. Puis on s'est dit, ben, écoute, on devrait les approcher en disant, est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on fasse une association quelconque. Le résultat avec l'épisode 0 ce soir de Poutine à 2 qui nous donne l'opportunité de faire découvrir des développeurs québécois, ben, non seulement à nos éditeurs québécois, parce que je suis sûr qu'il va y en avoir, mais aussi à la francophonie en général, de faire découvrir leur cheminement, un peu comme on l'a fait ce soir ensemble, leurs inspirations, leurs projets, leurs métiers. Donc vraiment un peu d'aller dans les dessous de ces personnes-là, puis de les aider un peu à rayonner, même à l'extérieur du Québec. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, puis je pense qu'il va être très bien reçu aussi bien ici que, j'espère, outre-Atlantique.
Non, définitivement. Puis sinon, on pourrait quand même parler des jeux sont faits. Comme on disait, ça fait 3 ans que ça roule. Ceci étant dit, avec l'entente qu'on a eue avec Radio-Kawa, ce qu'on disait, oui, on veut se commettre avec Poutine à 2, faire beaucoup de l'entrevue de ce côté-là. Ce qui va retirer le côté entrevue à les jeux sont faits. Mais les jeux sont faits, comme on disait, nous autres, on voudrait mettre plus une emphase côté actualité, discussion d'actualité. Et sinon, l'autre truc qu'on aimerait aussi beaucoup faire pour l'automne, probablement, c'est un passage vers la vidéo.
Oui, c'est ça. Ça fait un certain temps qu'on regarde la vidéo. Là, c'est sûr que l'avantage qu'on va avoir, c'est que on va avoir un épisode des jeux sont faits une semaine, puis un épisode de Poutine et deux l'autre semaine. Donc ça nous permet déjà d'avoir 2 semaines en chaque, ce qui potentiellement peut aider entre autres à être sûr qu'on ait le contenu à temps et qu'il soit de qualité. Peut-être un truc pour un peu teaser les auditeurs qui ont écouté l'épisode 0. Quel genre d'invité est-ce qu'on peut espérer recevoir à l'avenir dans Poutine à 2?
On va avoir des développeurs de jeux, on se le cachera pas, c'est quand même notre pain et notre beurre. Mais au-delà de ça, on va aller des fois aussi dans des domaines de création de jeux qui sont moins explorés. Comme exemple, les gens parlent beaucoup de jeux vidéo, mais assez rarement on parle de musique ou de travail sonore, donc c'est sûr, on va aller voir ces gens-là. Encore une fois, il y a des firmes spécialisées à ce niveau-là à Montréal, on va discuter avec ces gens-là. Mais après ça, on a quand même un écosystème médiatique à Montréal qui, soyons honnêtes, par rapport à l'Europe, est un petit peu plus pauvre, mais qui est quand même intéressant. On a une histoire assez intéressante au niveau des médias au Québec. Donc, notamment, une des discussions actuellement, j'ai un type qui est historien dans le domaine du jeu vidéo, donc ça se peut qu'il vienne faire un passage pour vraiment raconter qu'est-ce qui est particulier de l'histoire de Montréal. Il y a aussi des événements de plus en plus à Montréal au niveau du sport électronique, au niveau de la présentation des développeurs indépendants. On a déjà parlé à des gens qui organisaient, exemple, des festivals de développeurs indépendants. Nous allons parler à ces gens-là.
Tu sais, je pensais aussi, parce que je suis sûr qu'on va vouloir faire venir, mais on avait parlé à quelqu'un qui faisait plus du parc d'attraction, en fait, mais qui utilisait des approches et des techniques similaires au développement de jeux vidéo. Donc, des fois, il y a un peu ce mariage-là entre divertissement plus traditionnel et divertissement numérique, qui, encore une fois, c'est peut-être des choses qu'on a peut-être moins l'occasion d'entendre dans des podcasts de jeux vidéo, mais qu'on espère bien vous faire découvrir dans des futurs épisodes.
Sur ça, je trouve qu'on commence à dériver. Je crois qu'on va payer notre facture, puis on va retourner à ton appartement.
Oui, bien sûr.
Donc oui, Greg, nous sommes déjà de retour à ton appartement. Est-ce que la digestion va bien de ton côté?
Plutôt bien, mais je pense que je suis en état proche d'être dans un état de coma avancé. Une sieste ne serait pas mauvaise à ce moment-là.
Donc, t'es en train de mettre de la pression pour que je termine l'épisode?
Bah,
d'une certaine manière.
Voilà, on le dit, on va le dire.
Je vais essayer de faire ça pour, comme un pro. Donc, d'abord, si c'est votre premier rodéo avec Poutine à deux, bien évidemment, il y a la possibilité de s'abonner. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez d'abord aller sur radiokawa.com. Il devrait avoir un accès à un fil RSS. Vous pouvez utiliser ça et vous connecter à nous. Sinon, bien évidemment, il y a Apple Podcasts. Donc, utilisez votre nouveau téléphone du futur sans bordure pour vous abonner à nous. Et en théorie, ça devrait fonctionner. Crois-tu que c'est possible, Greg?
Avec un téléphone du futur, tout est possible.
Quelle philosophie face au futur, j'adore. Bien évidemment, Poutine à deux est présent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous allons avoir de nouveaux épisodes, nous allons les annoncer dans les médias sociaux, mais comme dans d'autres produits qu'on va peut-être parler tantôt, on aime bien collaborer avec les auditeurs. Donc, éventuellement, si nous avons des invités, on va les annoncer à l'avance et on va vous inviter justement à poser des questions à ces invités-là. Ça va nous faire plaisir de bâtir l'épisode avec vous. Il y a aussi, bien évidemment, Radio Kawa, notre grand partenaire dans cette grande aventure. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe du côté de Radio Kawa sur Facebook, cherchez l'identifiant Radio Kawa com, donc C-O-M, tout ça dans le même pain de mots. Et si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice de Twitter, cherchez Radio Kawa, donc R-A-D-I-O-K-A-W-A, tout ça encore une fois dans le même pain de texte et vous allez trouver Radio Kawa. Tant qu'à y être, Greg, on est quand même à Montréal, on est sur notre territoire, il faut parler des fois de nos projets personnels. Pourrais-tu parler de notre projet personnel à nous?
Oui, bien sûr. Mais écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, il y a aussi un autre podcast qu'on fait aux deux semaines. Donc, grosso modo, quand il n'y a pas l'épisode de Poutine à deux, il y a l'autre podcast qui est disponible qui s'appelle « Les jeux sont faits », où on se réunit avec des amis développeurs ou des fois même des gens qui sont peut-être pas nécessairement des développeurs, mais qui touchent à l'industrie du jeu vidéo de différentes façons. Et on commente l'actualité récente des jeux vidéo. Mais aussi, parfois, on en profite pour rebondir un peu plus en profondeur sur certains sujets parce que, soyons honnêtes, l'actualité, des fois, est un peu pauvre. Donc, on est moins dans la tendance, nécessairement, de reprendre un peu les nouvelles de presse ou les press releases des grosses compagnies et plus vraiment aller chercher ce que peuvent signifier certaines nouvelles pour les joueurs ou même pour nous en tant que développeurs, comment ça peut nous affecter ou comment ça peut affecter l'industrie en général.
Donc, c'est ça. C'est un regard de plus sur cette merveilleuse industrie du jeu. C'est très important. On commence la nouvelle série. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous aimeriez nous aider dans notre cheminement. Il y a une manière très simple. Vous pouvez aller sur Apple Podcasts et laisser des notes, un 5 étoiles autant que possible. Et si vous voulez aller une étape plus loin, vous pouvez évidemment laisser des commentaires. Cette fois-ci, positif, négatif, les deux vont être utiles. Positif, ça va nous donner un coup de main, ça va nous motiver. Et négatif, ça va nous permettre de faire un meilleur produit. Bien évidemment, comme j'ai mentionné, on fait partie du groupe Radio Kawa, donc on aime bien ça faire la promotion des autres émissions. Donc, on va terminer l'épisode avec des bandes-annonces des autres émissions de Radio Kawa. Donc, sur ce, on se dit à dans deux semaines. Au revoir!
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et 4 rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon, tout est bon dans le Japon.
Le 21e siècle. C'est parce que Mark et William avaient eu l'idée de développer des jeux ensemble que les dieux imaginèrent cette terrible vengeance.
Quiconque ose créer un logo avant la première ligne de code doit être puni. Vous serez condamné à animer un podcast sur le développement de jeux vidéo. Avec chaque mois un nouvel invité. Telle est notre volonté.
La Dev Team, c'est une fois par mois. Et c'est sur Radio Kawa.
Vivant, vous êtes vivant.